C'est une banlieue pavillonnaire tranquille, comme il en existe partout aux États-Unis. Mais aujourd'hui, pour tous les Américains, Graham est synonyme d'horreur. L'incendie de cette petite maison occupe la une du journal télévisé du 5 février dernier. C'est l'épilogue d'une histoire tragique. Dans les flammes, les pompiers retrouvent le corps de Charles, 7 ans. Celui de son petit frère, Braden, 5 ans. Et celui de leur père, Josh, 36 ans. Ce jour-là, c'est une assistante sociale qui appelle les secours. Elle accompagne les enfants chez leur père. Et elle est formelle. Il a délibérément mis le feu à la maison dans laquelle il se trouvait avec ses enfants.
Oui, il a fait exploser la maison.
Madame ?
Oui, il a fait exploser la maison.
Savez-vous s'il y a quelqu'un dans la maison ?
Oui, il y a un homme et deux enfants. Il ne m'a pas laissé rentrer.
Vous l'avez vu entrer dans la maison juste avant l'incendie ?
Il n'a même pas quitté la maison. Il a ouvert la porte, les enfants étaient juste devant moi. Ils ont 5 et 7 ans. Il m'a claqué la porte au nez.
Et vous pensez qu'il l'a fait intentionnellement ?
Oui.
Toutes les casernes de pompiers du secteur sont alertées. Quand elles arrivent sur place, les flammes dépassent 15 mètres de haut. La maison a littéralement explosé. Gary Franz a coordonné les secours. En fouillant les décombres de la maison, ces hommes confirment immédiatement que ce n'est pas un accident.
C'est sans doute le pire que j'ai pu voir dans ma carrière. J'ai vu des morts, j'ai vu des crimes, j'ai vu des incendies de maison. Mais je n'ai jamais vu tout cela en même temps.
Pourquoi cet homme s'est-il suicidé en emportant avec lui ses deux enfants ? C'est l'histoire d'une famille américaine modèle en apparence, mais qui portait en elle d'effroyables démons. Au départ, rien ne laissait présager un tel drame. Pendant de nombreuses années, la famille Powell affiche un bonheur parfait. Josh se marie avec Suzanne en 2001. Ils s'installent dans un quartier tranquille où ils achètent une maison dans la banlieue de Seattle. Josh est alors âgé de 25 ans. Il est programmeur en informatique indépendant. Il travaille à la maison. Suzanne a 20 ans. Elle est coiffeuse. En 2005, elle donne naissance à son premier garçon, Charles. Elle aime lui couper les cheveux. Puis vient Braden, 2 ans plus tard. La famille semble heureuse. Mais derrière ces images de sérénité se cache une réalité bien plus sombre. C'est la maison du père de Suzanne. Il habite à quelques kilomètres du couple. Suzanne lui rend souvent visite et elle lui révèle qu'elle n'est pas heureuse. Son mari la tyrannise.
C'était leur maison. Les stores étaient toujours descendus. Les portes et les fenêtres étaient toujours fermées. Elle n'avait pas le droit de conduire avec les enfants dans la voiture. Elle n'avait pas le droit de se servir d'Internet. Elle n'avait le droit de rien faire. Elle était prisonnière dans sa propre maison.
Quelques mois plus tard, Suzanne va disparaître. La famille a déménagé à 1300 km de là, près de Salt Lake City, dans l'Utah. Et les circonstances de sa disparition sont pour le moins étranges. La seule version dont on dispose, c'est celle de Josh. Et elle n'est pas très crédible. Il raconte qu'à 23h30 ce soir de décembre, il a décidé de partir camper à l'improviste dans le désert avec ses deux enfants, âgés de 2 et 4 ans. À son retour, Suzanne n'est pas là. Il se contente de dire à ses fils que leur mère est partie, sans aucune autre explication. Très vite, l'entourage s'inquiète, à commencer par le père de Suzanne qui n'arrive pas à la joindre, ni sur son portable, ni à son travail.
La voilà sur la photo.
Avec une des sœurs de Suzanne, il décide de téléphoner à Josh.
Où est Suzanne ? Il hésite et dit « Je ne sais pas », puis il dit « Elle est au travail ». Et sa sœur lui répond « Elle n'est pas au travail ». On a appelé à son travail et elle n'y est pas. Et elle lui demande « Josh, qu'est-ce que tu lui as fait ?» Et Josh raccroche comme s'il n'y avait plus de réseau téléphonique. J'ai compris à ce moment-là qu'il savait ce qui était arrivé à Suzanne. J'ai su qu'il l'avait fait.
Sous la pression familiale, Josh finit par signaler la disparition de sa femme. Mais la famille de Suzanne a engagé un avocat. Il est persuadé que Josh a tué son épouse parce qu'elle voulait divorcer.
Quand elle menace de le quitter en août 2009, il décide de réagir vite. Et en décembre, elle disparaît.
L'avocat a même une idée sur la méthode que Josh aurait employée.
Un an avant la disparition de Suzanne, Josh s'est vanté devant plein de monde à Noël qu'il savait comment se débarrasser d'un corps pour qu'il ne soit jamais retrouvé. Il disait qu'il fallait juste jeter le corps dans une mine de sel.
Et des mines de sel, il y en a à profusion dans la région où Josh a improvisé sa nuit de camping. Cette fameuse nuit où son épouse a disparu. Pourquoi voulait-il tuer sa femme ? Était-ce simplement parce qu'elle voulait le quitter ? Ou y avait-il une autre raison ? Les policiers ouvrent une enquête. Et dans la maison familiale, ils repèrent des traces de sang de Suzanne. Ils trouvent aussi les cartes de crédit, le téléphone portable et de l'argent liquide qui appartenaient à la jeune femme. Des indices, mais aucun élément décisif. Bien que Josh soit le principal suspect, il n'est pas inquiété. 3 semaines après la disparition de Suzanne, Josh déménage avec ses fils. Il retourne vivre près de Seattle où il va rejoindre son père qui est à la retraite et qui pourra l'aider à s'occuper des enfants. Toute la famille habite dans cette maison. Josh donne alors l'image d'un père aimant et attentionné. Il est tellement sûr d'avoir échappé définitivement à la justice qu'il accorde même des interviews à la télévision. Josh se défend d'avoir fait disparaître Suzanne.
Avez-vous une quelconque responsabilité dans la disparition de votre femme ?
Non.
Aucune ?
Aucune.
Vous l'aimez toujours ?
Oui.
Il n'y a qu'une seule personne qui soutient Josh. C'est son père, Steven. Devant la caméra, il accable sa belle-fille. Selon lui, c'est une femme volage et aguicheuse.
Elle venait régulièrement me provoquer après avoir pris une douche. Elle se penchait sur moi et me faisait sentir ses cheveux. Ou alors elle venait et me disait : « Je viens juste de me raser les jambes, touche comme elles sont douces. » Sérieusement, c'était le genre de choses que Suzanne aimait faire.
Selon lui, Suzanne est donc une femme légère, tout à fait capable de quitter sa famille sans explication. Peut-être pour aller vivre avec un autre homme. Mais 2 ans plus tard, les enfants commencent à livrer leurs souvenirs de cette fameuse nuit de camping. Braden, le plus jeune, n'a que 4 ans quand il dessine en classe une scène troublante.
Braden a fait ce dessin du minivan. L'instituteur connaissait son histoire familiale. Il lui a demandé : « C'est quoi ce dessin ?»« C'est nous, on part camper. » Et il lui demande : « Qui est dans le van ? » Braden a répondu : « Il y a papa, il y a mon frère Charlie et il y a moi. » Et Braden a dit : « Maman est dans le coffre. » Dans le coffre ? Pourquoi est-elle dans le coffre ? Braden ne savait pas. Il n'a rien dit et il a ajouté : « On est parti camper, on s'est arrêté. Papa et maman sont sortis de la voiture et maman n'est pas revenue. »
La police continue ses investigations et elle commence à découvrir des éléments inquiétants sur cette famille. À commencer par le père de Josh, celui qui le défendait face aux caméras. À l'issue d'une perquisition, la police fait une découverte sordide. Elle trouve des milliers d'images de petites filles déshabillées, des enfants du voisinage qu'il a filmés à leur insu. Steven possède aussi des photos de Suzanne en petite tenue, prises à la dérobée. Il est arrêté pour voyeurisme. Depuis, Steven attend son procès dans cette prison. Le grand-père est décrit comme un homme autoritaire et manipulateur. A-t-il joué un rôle dans la disparition de Suzanne ? Nous nous sommes rendus à son domicile. Pour y accéder, il faut franchir ce portail sécurisé. Aujourd'hui, sa maison est toujours habitée. Une de ses filles s'est installée ici. Elle se protège grâce à plusieurs caméras de vidéosurveillance. Elle ne sort pas beaucoup de la maison. C'est une de ses amies qui s'occupe de conduire les visiteurs.
Elle n'est pas prête à vous parler pour l'instant. Mais si vous avez une carte, elle peut vous appeler.
Un grand-père poursuivi pour détention d'images pédophiles. Un père soupçonné d'avoir fait disparaître sa femme. Il n'en faut pas plus au juge pour retirer à Josh la garde de ses enfants. D'autant que l'enquête va bientôt révéler une face cachée de Josh. Et l'étau va se resserrer autour de lui. Début février, il est convoqué au tribunal. Sur son ordinateur, les enquêteurs ont trouvé le même genre d'image pédophile que sur celui de son père. Le juge lui annonce qu'il va devoir subir une expertise psychiatrique et passer au détecteur de mensonges. Son avocat estime que Josh avait de plus en plus de mal à supporter cette pression.
Il était énervé, agacé. Je lui ai conseillé de rester optimiste et de penser à l'avenir.
Le matin du 5 février dernier, Josh envoie un mail explicite à son avocat.
Il ne comportait que trois mots. Il disait « Je suis désolé, au revoir ».
Et quelques heures plus tard, Josh allume le feu dans lequel il va périr avec ses deux enfants. Le corps de Suzanne n'a toujours pas été retrouvé. Mais il y a quelques jours, l'affaire a connu un dernier rebondissement. Les policiers ont retrouvé une lettre de Suzanne. Elle l'avait mise à l'abri dans le coffre d'une banque. Elle a écrit « S'il m'arrive quelque chose, cela ne sera pas un accident ». Chuck, le père de Suzanne, est persuadé que Josh, son gendre, a tué sa fille. Après le décès de ses deux petits-fils, c'est un homme brisé qui s'accroche à sa foi chrétienne.
Nous savons que nos petits-enfants sont avec leur mère au paradis, qu'ils sont au ciel avec elle. Ils ne souffrent plus. Nous sommes sûrs que notre fille est en paix dans les bras de Dieu.
Les enfants reposent au cimetière de la ville, tous les deux dans le même cercueil. Les habitants de la région se sont cotisés pour acheter les terrains autour de la tombe de Charlie et Braden. Ils ont ainsi empêché la famille de Josh d'enterrer le père meurtrier à côté de ses victimes.